Paris solidaire et engagé. C'était des anciens camarades de la CNT. Et voilà, bah, qui ont eu à subir les crises sanitaires, la situation économique globale, et puis l'inflation, la hausse des loyers, et puis voilà, 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 ça plus ça plus ça. Aider la librairie, la flibuste. On va rendre l'antenne, on va laisser Jean-Manuel nous présenter Les Muses s'amusent.
Et puis on vous dit, bel été quand même.
Ouais, on va prendre des vacances aussi. On se retrouve pas avant. Pas trop fort, s'il te plaît. On se retrouve pas avant le 1er septembre.
Ouais. Pour une émission
Qui sera encore
post-estival.
Voilà. Voilà, ça va me laisser quelques semaines pour lire 5 pages. Et retirer quelque chose. Allez, ciao. Bonnes vacances à tous et toutes. Et puis, on va pouvoir passer des rediffusions, des vieilles rediffusions. Voilà, vous serez pas tout. On va pas vous laisser tout seul quand même tout le long de l'été. Ciao.
Ciao.
À un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirter avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et là, cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux...
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Et de l'argent, petit, tu sais pas jouer aux billes, tu revends les balles en cuivre pour le moment. Éclairs de feu, béton déchiré par les barbelés et de temps en temps du cristal de sang. Quand vas-tu mourir? Un enfant trop vieux, un enfant trop dur. Un enfant, bien évidemment, peut tuer comme un grand. Et comme c'est la guerre, fais sa ronde, fais sa ronde. Et dans 10 ans, si jamais y'a plus l'enfer, si jamais y'a plus le fer, le feu, le sang, petit.
Les Muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Thank you.
Ce soir, les Muses s'amusent continue leur cycle d'émissions consacré au musée du Louvre et nous allons ce soir parler plus particulièrement du célébrissime tableau de Théodore Géricault, Le radeau de la Méduse. Tout le monde connaît l'expression « Le radeau de la Méduse », ne serait-ce que par la tout aussi célébrissime chanson de Georges Brassens, « Les copains d'abord », par l'album de Tintin, « Coq en stock », où la couverture est clairement une parodie ou un souvenir du tableau de Géricault, et au moins autant par les albums d'Astérix, où quand Astérix et Obélix voient le bateau des pirates, eh bien on sait que quelques images plus tard, les pirates vont se retrouver à la mer, agrippant quelques fragments de leur bateau, qui de temps en temps ressemblent très nettement au radeau de la Méduse. D'ailleurs, à un moment, le capitaine répond « Je suis médusé ». Pour comprendre ce chef-d'œuvre de Géricault, il importe de comprendre tout d'abord qui a été Théodore Géricault, le peintre. Géricault naît en 1791 dans une famille plutôt aisée des environs de Rouen et pour quasiment la totalité de sa vie, il n'aura pas de problème d'argent, sauf à la fin. Son père était plus ou moins un homme de loi et avait épousé une demoiselle venant d'une famille fort riche. En 1796, la famille déménage et s'installe à Paris. Son père a connu quelques difficultés, mais se voit engagé dans une entreprise de vente de tabac, ce qui lui permet de rester à flot. On envoie le jeune Géricault au lycée et en 1810, il entre dans l'atelier du peintre Karl Vernet, le père d'un peintre plus célèbre, Horace Vernet, qui a peint une série de tableaux représentant les ports, en particulier les ports militaires. En 1811, il entre à l'école des beaux-arts, et là, il fait ce que font la plupart des étudiants en peinture de cette école. Il passe son temps au Louvre à copier, recopier, re-recopier encore les maîtres anciens afin d'acquérir les secrets de leur technique. Géricault copie surtout des tableaux comportant des chevaux. L'obsession chevaline de Géricault durera toute sa vie et nous vaudra une série de tableaux magnifiques. C'est l'un des peintres qui a le mieux peint les chevaux et c'est certainement le peintre français qui a le mieux et le plus peint de chevaux. En 1812, Vivant de Non, pape des arts sous Napoléon, exclut Géricault de l'école des beaux-arts pour inconduite. On ne sait pas très bien, enfin je ne sais pas très bien pour quelle raison, mais nous savons en revanche que Géricault était quelqu'un de tout à fait extrême, peut-être maniaco-dépressif, peut-être cyclotimique, allez savoir. En tout cas, la chose n'est pas pour nous étonner. Par bonheur pour les arts et pour Géricault, cette expulsion ne va pas le perturber outre mesure, souvenons-nous qu'il est indépendant financièrement, et il va se mettre très vite à travailler au premier tableau qui va le rendre célèbre, qui est lui-même exposé au Louvre, et qui s'appelle « Officier de chasseur à cheval de la garde impériale, Chargent ». Ce tableau est un portrait d'un lieutenant appelé Monsieur Dieudonné. Géricault va le peindre d'un seul jet, très rapidement, en 5 semaines. Géricault va envoyer le tableau au salon. Je rappelle que le salon, c'était cette énorme exposition organisée par l'Académie des Beaux-Arts. À son apogée, le salon présentera 4000 œuvres chaque année. Et obtenir la médaille d'or du salon était un ticket quasiment certain d'entrer, un peu plus tard bien sûr, à l'Académie des Beaux-Arts elle-même. Le tableau est un très gros succès. En plus, il est accroché à à côté d'un autre tableau qui est aujourd'hui au musée du Louvre, accroché également à côté de lui, et qui est un portrait de Murat par le peintre Gros. Très franchement, celui de Géricault est nettement plus intéressant du point de vue graphique. Il y a une espèce de spirale et de contre-spirale tout à fait inattendue, alors que le tableau de Gros a un côté naïf. Peut-être que Gros a voulu montrer la vanité de Murat, qui adorait les uniformes clinquants, flamboyants, mais ça diminue la valeur du tableau de Gros, la valeur graphique du tableau de Gros. Alors que celui de Géricault, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas les militaires et leurs uniformes, c'est un tableau extrêmement beau, où d'ailleurs l'uniforme du chasseur à cheval n'est pas et de loin le point central du tableau. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'extraordinaire cheval en train de se cabrer qui y est représenté. Quand David passe devant ce tableau, il s'exclame « D'où cela sort-il ? Je ne reconnais pas cette touche. » Une autre caractéristique étonnante du tableau de Géricault, officier des chasseurs à cheval de la garde impériale chargeant, est l'attitude probablement impossible de l'officier. En effet, son cheval se cabre brutalement, mais l'officier, lui, tranquillement, tourne la tête aussi loin qu'il peut pour regarder derrière lui, avec un visage parfaitement impassible, et il se tient extrêmement droit dans ses étriers. Il y a donc là un peu de magie, nous dirions peut-être à notre époque en 2025, un peu beaucoup de Photoshop. En tout cas, Géricault, à la surprise générale, obtient la médaille d'or à seulement 21 ans. Ça y est, il est célèbre. Il va alors s'installer rue des Martyrs, cette rue de Paris qui est un peu en dessous de Montmartre. Il faut savoir ou se souvenir que la rue des Martyrs est une rue extrêmement en pente. Alors si d'un côté le quartier à l'époque est tout à fait moderne et désiré par les artistes, souvenons-nous qu'on appellera ce quartier la Nouvelle Athènes, le choix de la rue des Martyrs est peut-être un peu curieux car Géricault, cet amant des chevaux, va très souvent dévaler cette rue à toute allure et c'est une chute à partir de son cheval et certains disent même qu'il se lançait de la fenêtre pour atterrir sur la selle de son cheval et que la fameuse chute, eh bien, c'est qu'il aurait manqué son coup. Toujours est-il que c'est bien une chute de cheval rue des Martyrs qui le fera horriblement souffrir et lui occasionnera un an de gangrène et une mort que tout le monde qui l'a vu a appelé atroce. Incidemment, il habite pas loin de là où habitent deux peintres de ses amis, Delacroix, qui jusqu'à un certain point va être une espèce de disciple de Géricault, et un peintre moins connu, Harry Schaeffer, un Hollandais. À Paris, le musée de la vie romantique comporte beaucoup d'œuvres d'Harry Schaeffer, puisque c'était dans l'immeuble qui abrite aujourd'hui ce musée qu'habitait Harry Schaeffer. Géricault, à partir de ce moment-là, va peindre de plus en plus souvent des œuvres donnant des scènes militaires et donnant des visions souvent horribles, des blessures, des cadavres. On peut presque parler de nécrophilie à propos de Géricault. Clairement, il avait là un problème mental ou émotionnel, une fascination profondément malsaine pour les membres amputés. On en parlera pour le radeau de la Méduse. Et pendant qu'il va faire le radeau de la Méduse, il va faire des études, des croquis, des ébauches, des esquisses avec des membres amputés que des chirurgiens lui procureront. Ces études, ces esquisses sont d'ailleurs fort bien faites et prouvent que Géricault a longuement contemplé, observé et puis copié ces bouts de cadavres. À cette époque-là, Géricault va s'éprendre de sa propre tante, qui, tout à fait entre nous, n'a quand même que 6 ans de plus que lui, ce qui peut expliquer, jusqu'à un certain point, cette union un petit peu bizarre, elle aussi. Bizarre, mais en tout cas fertile, puisqu'ils auront un enfant ensemble. Cet enfant ne va certes pas être déclaré au nom soit de la tante, soit du neveu, mais il aura pour mère officielle la bonne de la tante et pour père un inconnu. En 1814, Louis XVIII revient au pouvoir, selon l'expression consacrée dans les fourgons de l'étranger, et Géricault s'engage dans la compagnie des mousquetaires gris, ce qui prouve qu'il n'était pas exactement un révolutionnaire. Napoléon revient, Louis XVIII donc repart, là, Géricault suit Louis XVIII, et puis, quand Napoléon est finalement battu, eh bien Louis XVIII revient, et Géricault, lui aussi, revient. Après quoi, Géricault va tenter sa chance au Grand Prix de Rome, ça ne marche pas. Qu'à cela ne tienne, il va quand même partir en Italie, mais tout simplement à ses frais. Il met à profit son séjour italien pour, comme pendant sa période à l'École des Beaux-Arts, pour copier, recopier, re-recopier des chefs-d'œuvre, cette fois-ci italiens, mais il revient relativement rapidement en France. Et arrive l'année 1819. Et il se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir envoyer au salon. Et c'est là qu'il découvre, comme d'ailleurs le reste de la France, le scandale de la Méduse, de la frégate, la Méduse. Comme nous allons parler plus en détail du tableau dans quelques instants, je ne vais pas m'attarder sur le récit de cette affaire, je vais le refaire de manière bien plus détaillée un peu plus tard. Néanmoins, je vous en donne les grandes lignes. Les Anglais avaient pris possession du Sénégal pendant la période napoléonienne. À présent qu'elle est terminée, parmi toutes les négociations de paix, on rend le Sénégal à la France. En conséquence, Louis XVIII décide d'envoyer une expédition maritime pour récupérer le Sénégal. Cette expédition se compose de 4 navires, dont un navire, mettons, amiral, la frégate, la Méduse. Seulement voilà. La Méduse va être commandée par un capitaine de vaisseau, certes, mais noble. Noble, et c'est la raison pour laquelle Louis XVIII décide de ne pas penser au fait que ce capitaine de vaisseau n'a pas mis les pieds sur un vaisseau depuis 20 ans, parce que pendant 20 ans, il a suivi Louis XVIII dans son exil, et donc ses compétences sont pour le moins rouillées. En particulier, ce capitaine n'a pas mis les pieds, ou dirait-on les nageoires, en Afrique. Or, son second et le reste des officiers de l'équipage, eux, connaissent bien l'Afrique. Seulement, très vite, le capitaine va s'apercevoir que ses officiers sont, sinon républicains ou du moins bonapartistes ou en faveur de Napoléon, ou en tout cas une chose est sûre, ils n'aiment pas la monarchie. Lui s'en aperçoit et par conséquent se méfie de ses officiers à double titre, tant du point de vue politique que parce que ses officiers risquent de lui démontrer son incompétence. Lorsque la Méduse arrive plus ou moins au large du Sénégal, les autres officiers préviennent le capitaine qu'il y a là un énorme banc de sable sur lequel la Méduse risque de s'échouer et elle se dirige droit dessus. Par pure arrogance, le capitaine n'écoute pas les conseils de ses subordonnés, la frégate arrive droit dans le banc de sable et s'échoue. Ça va se passer très mal, si mal que le capitaine sera le premier à quitter le vaisseau dans les chaloupes, on dirait maintenant dans les canots de sauvetage, laissant derrière lui 147 personnes qui seront contraintes de quitter le navire sur un radeau de fortune. Et ce qui va se passer sur le radeau va être tellement horrible que cela donnera la matière du tableau de Géricault. Il n'y aura au final que 5 survivants de ce radeau avec 147 personnes. Et honte suprême pour la France, ces 5 survivants seront ramenés en France par un bateau britannique. Le scandale, même si le roi et le gouvernement du roi ont tenté de l'étouffer, le scandale sera énorme, et d'autant plus énorme que ce qu'il démontre, c'est l'incompétence de ce régime qui, je le rappelle à nouveau, n'a pu s'installer qu'à cause de la défaite militaire imposée aux Français par les Prussiens, les Autrichiens, les Russes et les Britanniques. Géricault voit tout de suite le potentiel de cet événement et comprend que s'il en fait un tableau pour le salon, eh bien l'actualité en tout cas aidera à le rendre encore plus célèbre qu'il ne l'est déjà. Il est un peu surprenant que Géricault n'ait pas vu que son tableau allait immédiatement rendre évident un très gros problème de la Restauration. L'une des choses qu'avait accompli la Révolution et jusqu'à un certain point même Napoléon, c'est que à la structure aristocratique oligarchique de la France de l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire substituent une structure méritocratique. La Révolution y ajoutait la démocratie, Napoléon l'a enlevée. Néanmoins, cette structure méritocratique plaît quand même de très loin à la vaste majorité des Français. Alors que le scandale de la Méduse démontre que abandonner la méritocratie, c'est une course très sûre et très certaine vers l'échec. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans le sou. Les Muses s'amusent continuent leur cycle d'émissions sur le musée du Louvre et aujourd'hui, elles sont consacrées au tableau de Théodore Géricault, Le radeau de la Méduse. Il se lance dans la réalisation du tableau avec une énergie qui confine au pathologique. On sait, je vous en ai touché un mot juste un petit peu avant, on sait qu'il va aller dans un hôpital où il va peindre les membres amputés que lui donnent les chirurgiens qui viennent de réaliser telle ou telle amputation. On connaît ces tableaux, c'est abominable à regarder. On voit l'intérieur des bras qui est tout rouge et puis l'extérieur qui peut être un peu brun ou surtout un peu verdâtre. On sait que son atelier va puer à cause de ces fragments en décomposition. Il va même peindre, non pas à l'hôpital, mais peut-être en prison, il va peindre deux têtes de guillotinés, mais fort heureusement, il va avoir la chance de rencontrer deux survivants du drame. L'aide-chirurgien Henri Savigny et l'ingénieur géographe Alexandre Coréard, qui vont, hors Savigny et Coréard, sont les auteurs d'un récit de tout l'événement. Ils ont écrit « Relation du naufrage de la frégate La Méduse » qui a été réédité de nos jours en collection Folio avec un titre un tout petit peu plus parlant « Le naufrage de La Méduse ». Je recommande très vivement de lire cet excellent livre qui est un récit extrêmement précis. Je ne vais pas dire impartial, parce qu'évidemment Savigny et Coréard ont beaucoup souffert, mais qui, à l'évidence, est un récit absolument honnête de ce qui s'est passé. Et je recommande tellement ce livre que je vais vous en lire des extraits. Voici un extrait du chapitre 6. Les infortunés que la mort avait épargnés dans la nuit désastreuse que nous venons de décrire se précipitèrent sur les cadavres dont le radeau était couvert, les coupèrent par tranches, et quelques-uns même les dévorèrent à l'instant. Beaucoup néanmoins n'y touchèrent pas, presque tous les officiers furent de ce nombre. Voyant que cette affreuse nourriture avait relevé les forces de ceux qui l'avaient employée, on proposa de la faire sécher pour la rendre un peu plus supportable au goût. Ceux qui eurent la force de s'en abstenir prirent une plus grande quantité de vin. Nous essayâmes de manger des baudriers de sabre et des gibernes. Nous parvînmes à en avaler quelques petits morceaux. Quelques-uns mangèrent du linge, d'autres des cuirs de chapeau, sur lesquels il y avait un peu de graisse ou plutôt de crasse. Nous fûmes forcés d'abandonner ces derniers moyens. Un matelot tenta de manger des excréments, mais il ne put y réussir. Enfin, le quatrième soleil depuis notre départ revint éclairer notre désastre et nous montrer 10 ou 12 de nos compagnons gisant sans vie sur le radeau. Cette vue nous frappa d'autant plus vivement qu'elle nous annonçait que sous peu, nos corps, privés d'existence, seraient étendus sur la même place. Nous donnâmes à leurs cadavres la mer pour sépulture, n'en réservant qu'un seul, destiné à nourrir ceux qui, la veille, avaient serré ses mains tremblantes en lui jurant une amitié éternelle. Cette journée fut belle. Nos esprits, avides de sensations plus douces, se mirent en harmonie avec l'aspect de la nature et du ciel et s'ouvrirent à un nouveau rayon d'espoir. Le soir, vers les 4 heures, un événement inattendu nous apporta quelques consolations. Un banc de poissons volants passa sous le radeau et, comme les extrémités laissaient entre les pièces qui le formaient une infinité de vide, les poissons s'y engagèrent en très grande quantité. Nous nous précipitâmes sur eux et nous fîmes une capture assez considérable. Nous en prîmes environ 200 et les dépeçâmes dans un tonneau vide. À mesure que nous les attrapions, on leur ouvrait le ventre pour en tirer ce qu'on nomme la lette. Ce mets nous parut délicieux, mais il en faudrait un millier pour un seul homme. Notre premier mouvement fut d'adresser à Dieu de nouvelles actions de grâce pour ce bienfait inespéré. Une once de poudre à canon trouvée le matin avait été séchée au soleil pendant la journée, qui fut fort belle. Un briquet, des pierres à fusil et de l'amadou faisaient aussi partie du même paquet. Après des peines infinies, nous parvînmes à embraser des morceaux de linge sec. Nous fîmes une large ouverture sur l'un des côtés du tonneau vide. Nous plaçâmes dans son fond plusieurs effets mouillés et sur cette espèce d'échafaudage, nous établîmes notre foyer. Nous l'élevâmes ensuite sur une barrique pour que l'eau de mer ne vînt pas éteindre le feu. Nous fîmes cuire des poissons et nous en mangeâmes avec une extrême avidité. Mais notre faim était telle et notre portion de poisson si petite que nous y joignîmes de ces viandes sacrilèges que la cuisson rendit moins révoltantes. Ce sont celles auxquelles les officiers touchèrent pour la première fois. Le jour vint enfin nous éclairer pour la cinquième fois. Nous n'étions plus que 30. Nous avions perdu 4 ou 5 de nos fidèles marins. Ceux qui survivaient étaient dans l'état le plus déplorable. L'eau de la mer avait enlevé presque entièrement l'épiderme de nos extrémités inférieures. Nous étions couverts ou de contusions ou de blessures qui, irritées par l'eau salée, nous arrachaient à chaque instant des cris perçants. De sorte que 20 tout au plus d'entre nous étaient capables de se tenir debout et de marcher. Presque toute la provision de notre pêche était épuisée. Nous n'avions plus de vin que pour 4 jours, et il nous restait à peine une douzaine de poissons. Dans 4 jours, disions-nous, nous manquerons de tout, et la mort sera inévitable. Ainsi arriva le 7e jour de notre abandon. Nous calculions que dans le cas où les embarcations n'auraient pas échoué à la côte, il leur fallait au moins 3 ou 4 fois 24 heures pour se rendre à Saint-Louis. Il fallait ensuite le temps d'expédier des navires, et à ces navires celui de nous retrouver. Nous résolûmes de tenir le plus longtemps possible. Dans le courant de la journée, 2 militaires s'étaient glissés derrière la seule barrique de vin qui nous resta. Ils l'avaient percée et buvaient avec un chalumeau. Nous avions tous juré que celui qui emploierait de semblables moyens serait puni de mort. Cette loi fut à l'instant mise à exécution, et les 2 infracteurs furent jetés à la mer. Cette même journée vit terminer l'existence d'un enfant âgé de 12 ans, nommé Léon. Il s'éteignit comme une lampe qui cesse de brûler faute d'aliments. Tout parlait en faveur de cette jeune et aimable créature qui méritait un meilleur sort. Sa figure angélique, sa voix harmonieuse, l'intérêt d'un âge si tendre, augmenté encore par le courage qu'il avait montré et les services qu'il pouvait compter puisque déjà il avait fait l'année précédente une campagne dans les Grandes Indes, tout nous inspirait la plus tendre pitié pour cette jeune victime vouée à une mort si affreuse et si prématurée. Aussi, nos vieux soldats et tous nos gens en général lui prodiguèrent tous les soins qu'ils crurent propres à prolonger son existence. Ce fut en vain. Ses forces finirent par l'abandonner. Ni le vin qu'on lui donnait sans regret, ni tous les moyens qu'on put employer ne l'arrachèrent à son funeste sort. Et ce jeune élève expira dans les bras de M. Coudin, qui n'avait cessé d'avoir pour lui les attentions les plus empressées. Tant que les forces de ce jeune marin lui avaient permis de se mouvoir, il n'avait cessé de courir d'un bord à l'autre en demandant à grands cris sa malheureuse mère de l'eau et des aliments. Il marchait indistinctement sur les pieds ou les jambes de ses compagnons d'infortune qui, à leur tour, poussaient des cris douloureux et à tout instant répétés. Mais très rarement, ces plaintes étaient suivies de menaces. On pardonnait tout à l'infortuné qui les avait excités. D'ailleurs, il était dans un véritable état d'aliénation, et dans son égarement non interrompu,
On ne pouvait plus attendre de lui qu'il se comportât comme s'il lui fût resté quelque usage de la raison. Alors à présent, je vais sauter jusqu'au chapitre 7, page très exactement 133. Il s'est passé un peu de temps et maintenant il va y avoir quelque chose de très important. Le 17 au matin, le soleil parut dégagé de tout nuage. Après avoir adressé nos prières à l'Éternel, nous partageâmes une partie de notre vin. Chacun savourait avec délice sa faible portion, lorsqu'un capitaine d'infanterie, jetant ses regards à l'horizon, aperçut un navire et nous l'annonça par un cri de joie. Nous reconnûmes que c'était un brick, mais il était à une grande distance. Nous ne pouvions distinguer que les extrémités de ses mâts. La vue de ce bâtiment répandit parmi nous une allégresse difficile à dépeindre. Chacun de nous croyait son salut certain et nous rendîmes à Dieu 1000 actions de grâce. Cependant, des craintes venaient se mêler à nos espérances. Nous redressâmes des cercles de barriques, aux extrémités desquelles nous fixâmes des mouchoirs de différentes couleurs. Un homme, avec nos secours réunis, monta au haut du mât et agita ses petits pavillons. Pendant plus d'une demi-heure, nous flottâmes entre l'espoir et la crainte. Les uns croyaient voir grossir le navire, les autres assuraient que sa bordée le portait au large de nous. Ces derniers étaient les seuls dont les yeux n'étaient pas fascinés par l'espérance, car le brick disparut. Là arrive, dans l'édition Folio, un texte que cette édition met dans un encadré parce qu'il a été rédigé par Savigny et Coréard après qu'ils eurent vu le tableau de Jéricho. Donc ça a été rajouté dans une édition ultérieure. Je vais donc lire ce texte, écrit par deux des survivants, après qu'ils aient vu le tableau terminé par Jéricho. Monsieur Jéricho a fait de cet épisode un tableau dont voici la description. Le groupe principal est composé de Monsieur Savigny au pied du mât et de Monsieur Coréard, dont le bras étendu vers l'horizon et la tête tournée vers Monsieur Savigny, indique à celui-ci le côté où se dirige un bâtiment aperçu au large par deux matelots qui lui font des signaux avec des lambeaux d'étoffe de couleur. Les expressions de ces différentes figures sont énergiques et tout à fait conformes à la vérité historique. Découragé et croyant remarquer que la corvette signalée fait une route opposée à celle qu'on espère, le chirurgien Savigny indique à ses amis qu'il se flatte en vain. Son camarade, au contraire, par une inspiration qui eut la plus heureuse réalité, essaie de lui persuader que le bâtiment en vue étant à leur recherche ne saurait manquer de virer de bord et de les rencontrer avant la fin du jour. Pendant cette petite scène, à laquelle trois personnages, rapprochés des deux que j'ai nommés, prennent part, chacun dans un sens bien marqué, les hommes qui agitent leurs signaux poussent des cris de joie auxquels répond M. Coudin qui se traîne jusqu'à eux. L'une des victimes, presque mourante, entend cette clameur qui pénètre jusqu'au fond de son cœur. Elle lève sa tête décolorée et semble exprimer son bonheur par ces mots. « Au moins, nous ne mourrons pas sur ce funeste radeau. » Derrière cet homme, abattu, exténué de maux et de besoins, un Africain n'entend rien de tout ce qui se passe autour de lui. Il est morne et sa figure immobile accuse la situation de son âme. Plus loin, dans un état d'anéantissement et de douleur, un vieillard, tenant couché sur ses genoux le cadavre de son fils expiré, se refuse à toutes les impressions de la joie que peut faire éprouver la nouvelle de sa délivrance. Que lui importe la vie qu'il va recouvrer ? Ce jeune homme, qui faisait son espoir et sa consolation, cet ami qui avait partagé tant de maux, vient de succomber. Il est condamné à lui survivre quelques jours, quelques heures seulement, car les souffrances inouïes qu'il a éprouvées sont de sinistres précurseurs du trépas. Mais ce peu d'instants lui doit être à charge. L'océan va engloutir l'objet de toutes ses affections et de tous ses regrets. Là, je reprends la parole un instant. Quand on regarde le tableau et qu'on regarde ce vieillard que Coréard et Savigny viennent de décrire, on s'aperçoit qu'il a sur la poitrine une toute petite croix rouge qui ressemble absolument à une croix de la Légion d'honneur. Pourquoi diable Jéricho a-t-il mis cette Légion d'honneur sur le torse de ce vieillard en plein deuil du fils qui est sur ses genoux? Est-ce une approbation de Napoléon? Ça ne peut pas l'être, puisque Jéricho était parti avec Louis XVIII dans son exil. Je dois avouer personnellement que je n'y comprends rien, et que peut-être l'une des solutions serait que Jéricho, en montrant cette Légion d'honneur, j'imagine que Coréard et Savigny ont peut-être dû lui dire que l'un des gens sur le radeau avait sa Légion d'honneur, peut-être que Jéricho vous montrait que c'était un homme d'un grand courage, et que pour abattre un tel homme, il fallait une chose aussi horrible que la mort de son propre fils et le fait de porter le cadavre de ce fils sur ses genoux. Honnêtement, je n'en sais rien. En tout cas, quand vous verrez le tableau au Louvre, regardez bien, vous y trouverez cette petite croix rouge. Je reprends la lecture de la fin du texte de Coréard et Savigny sur leur réaction devant le tableau de Jéricho. Cet épisode est des plus touchants. Il fait honneur à l'imagination de M. Jéricho. Enfin, ça est là, sur le premier et le second plan, des corps morts ou des malheureux prêts à rendre le dernier soupir. Telle est assez fidèlement la marche de cette vaste composition, à laquelle la variété des poses et la vérité des mouvements donnent un grand caractère. Ensuite, là, nous revenons à la première édition du livre de Savigny et Coréard, et là où il raconte, il continue à raconter ce qui s'est passé. Du délire de la joie, nous passâmes à celui de l'abattement et de la douleur. Nous envions le sort de ceux que nous avions vus périr à nos côtés et nous disions entre nous, lorsque nous manquerons de tout et que nos forces commenceront à nous abandonner, nous nous envelopperons de notre mieux, nous nous coucherons sur ce parquet, témoins des plus cruelles souffrances, et là, nous attendrons la mort avec résignation. Enfin, pour calmer notre désespoir, nous voulûmes chercher quelques consolations dans les bras du sommeil. La veille, nous avions été dévorés par les feux d'un soleil brûlant. Ce jour-ci, pour fuir la vivacité de ses rayons, nous fîmes une tente avec le grand cacatois de la frégate. Dès qu'elle fut dressée, nous nous couchâmes tous dessous. Nous ne pouvions ainsi apercevoir ce qui se passait autour de nous. On proposa alors de tracer sur une planche un abrégé de nos aventures, d'écrire tous nos noms au bas de notre récit, de le fixer à la partie supérieure du mât dans l'espérance qu'il parviendrait au gouvernement et à nos familles. Après avoir passé 2 heures livrées aux plus cruelles réflexions, le maître canonnier de la frégate voulut aller sur le devant du radeau et sortit de dessous notre tente. À peine eut-il mis la tête au dehors, qu'il revint à nous en poussant un grand cri. La joie était peinte sur son visage, ses mains étaient étendues vers la mer. Il respirait à peine, tout ce qu'il put dire ce fut « Sauvé, voilà le brick qui est sur nous !» Et il était en effet tout au plus à une demi-lieue, ayant toutes ses voiles dehors, et gouvernant à venir passer extrêmement près de nous. Nous sortîmes de dessous notre tente avec précipitation. Ceux même que d'énormes blessures aux membres inférieurs retenaient continuellement couchés depuis plusieurs jours, se traînèrent sur le derrière du radeau pour jouir de la vue de ce navire qui venait nous arracher à une mort certaine. Nous nous embrassions tous, avec des transports qui tenaient beaucoup de la folie, et des larmes de joie sillonnaient nos joues desséchées par les plus cruelles privations. Chacun se saisit de mouchoirs ou de différentes pièces de linge pour faire des signaux aux briques qui s'approchaient rapidement. Quelques autres, prosternés, remerciaient avec ferveur la Providence qui nous rendait si miraculeusement de la vie. Notre joie redoubla lorsque nous aperçûmes au haut de son mât de misaine un grand pavillon blanc. Nous nous écriâmes « C'est donc à des Français que nous allons devoir notre salut ». Nous reconnûmes presque aussitôt le brick, l'Argus. Il était alors à 2 portées de fusil. Nous nous impatientions vivement de ne pas lui voir carguer ses voiles. Il les amena enfin et de nouveaux cris de joie s'élevèrent de notre radeau. L'Argus vint se mettre en panne tribord à nous, à demi-portée de pistolet. L'équipage rangé sur le bastingage et dans les haubans nous annonçait, en agitant les mains et les chapeaux, le plaisir qu'ils ressentaient de venir au secours de leurs malheureux compatriotes. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Nous sommes toujours les Muses s'amusent et nous continuons à parler du tableau de Théodore Géricault exposé au Louvre, Le radeau de la Méduse. Et je viens de lire des extraits du livre de deux survivants du naufrage de la Méduse, messieurs Coréard et Savigny. Leur livre a été publié aux éditions Folio sous le titre « Le naufrage de la Méduse ». En parlant des survivants, il faut mentionner que seules 5 personnes reviendront en France des 147 qui se trouvaient sur le radeau. 15 personnes pourront débarquer au Sénégal, mais donc 10 vont mourir d'épuisement, de maladie, et leur séjour même au Sénégal ne va pas nécessairement très bien se passer, puisque le gouverneur anglais n'a pas encore reçu de son gouvernement à lui la nouvelle qu'il doit rendre la souveraineté aux Français. Je signale en plus que parmi les marins qui étaient arrivés en premier, ceux qui accompagnaient le capitaine qui, comme je l'avais expliqué, est gentiment parti le premier de son navire en perdition, exactement contrairement à la tradition maritime, eh bien, une grande partie de ces marins voudra rentrer beaucoup plus vite en France et vont avoir l'idée un peu saugrenue de le faire avec une caravane. Donc, ils vont vouloir traverser l'Afrique noire et l'Afrique du Nord pour remonter jusqu'en France. Ça se passera extrêmement mal. Fort peu réussiront à arriver jusqu'en France. Une fois rentrés en France, Savigny et Coréard auront toutes les peines du monde à se faire entendre. C'est la raison pour laquelle ils vont écrire leur livre, ce livre qui va permettre à Géricault de savoir ce qui s'est passé sur le radeau. Signalons aussi que le monsieur Coudin, dont vous avez entendu le nom dans la lecture des extraits, eh bien c'était le charpentier. C'est ce charpentier qui a réussi à fabriquer cet énorme bateau à partir de différentes parties de la frégate La Méduse. Et ce charpentier survivant va même faire un modèle du radeau au bénéfice de Géricault. Et donc le radeau que l'on voit dans le tableau est en gros identique à celui sur lequel les marins et les passagers ont atrocement souffert et sont souvent morts pendant les 13 jours de leur dérive. D'ailleurs, dans les visites que je fais du Louvre, quand je parle du radeau de la Méduse devant le tableau, je fais observer aux gens que la largeur du tableau étant à peu près identique à celle du radeau, et la largeur en revanche de la salle, c'est-à-dire la distance entre le mur où se trouve le tableau et le mur opposé, correspond vaguement à la longueur du radeau. Bref, les visiteurs peuvent se rendre compte de la taille de ce radeau, qui est certes considérable pour le mot « radeau », mais quand ils se mettent à essayer d'imaginer 147 personnes sur cet espace, ils comprennent à ce moment-là que le dit espace était extrêmement réduit. Ils comprennent pourquoi au départ tout le monde est debout. Ils comprennent pourquoi en particulier, ne pouvant absorber que du vin, bien des gens ivres sont tombés à l'eau et n'ont pas été repêchés. Également, pendant les combats et les disputes, il a été extrêmement facile de jeter l'adversaire à l'eau, ce qui explique une grande partie des décès parmi les 147 personnes. On sait d'ailleurs, par le récit de Savigny et Coréard, qu'une cantinière, qui en outre était peut-être une femme noire, a été jetée 3 fois à l'eau, la dernière étant effectivement définitive malheureusement. Signalons en outre que le radeau n'avait bien entendu pas de quille. Il n'avait qu'une seule voile. Vous imaginez, dès que la mer était un peu grosse, ce que ça devait donner. Comme il n'y avait pas de bordage, eh bien l'eau de mer, les vagues rentraient et mouillaient tout le monde, et c'est la raison pour laquelle Savigny et Coréard indiquent que, très rapidement, entre les coups de soleil et l'eau de mer avec le sel qui leur ronge la peau, très rapidement, la plupart des personnes présentes sur le radeau ont eu les jambes et la peau rongées tant par le soleil que par le sel. Puisque Géricault dispose de la présence de Savigny et Coréard, il va les peindre dans le tableau, d'autant qu'ils font partie de la dernière poignée de survivants. Il va également utiliser un homme noir qui était à Paris et qui était un esclave, soit libéré, soit fugitif, ce n'est pas très clair, mais en tout cas qui n'était plus un esclave. Et il va utiliser cet homme comme modèle pour les Africains dans le tableau, et en particulier l'homme musclé qui, tout en haut de la pyramide de l'espoir, eh bien, fait des signaux aux briques Argus, qui, dans le tableau, ne va pas les voir et va plonger tout le monde dans le désespoir pendant quelque temps. Outre cet ex-esclave, dont on sait qu'il s'appelait Joseph, on connaît encore un autre modèle du tableau. Ce jeune homme, dont on ne voit pas le visage, dont on voit juste l'abondante chevelure noire, qui a un bras étendu, on ne sait pas très bien s'il meurt, s'il est déjà mort, s'il est malade, ou s'il est désespéré, mais il y a cette chevelure abondante, et ce modèle va devenir très célèbre, et peut-être même plus célèbre que Géricault lui-même, puisqu'il s'agit de Delacroix. Delacroix était 7 ans plus jeune que Géricault, et il a sans doute été ravi d'être modèle pour ce tableau. En parlant de modèle, en parlant de cet ex-esclave haïtien, M. Joseph, on se rend compte d'une chose. Joseph était un modèle pour les autres peintres académiques, pour les peintres pompiers, entre autres choses, parce qu'il avait un corps extrêmement puissant, musclé, très beau. Or, les naufragés, eux, comme je viens de l'expliquer, entre les coups de soleil, entre la faim, la soif, les coups et les plaies, peut-être très souvent complètement à vif, infligées par l'eau de mer ou par les combats, les corps de tous ces naufragés n'étaient certainement pas les corps parfaits, musclés, idéalisés pour tout dire, que nous donne Géricault. Pourquoi est-ce que Géricault n'a pas cédé à son fantasme nécrophile, à sa fascination pour l'horreur, pour les chairs morbides? Pourquoi est-ce qu'il nous représente ces hommes dans la plus pure tradition académique? On peut hasarder deux choses. Tout d'abord, par conformisme, peut-être que ça ne lui vient même pas à l'idée d'oser représenté dans un grand tableau. Rappelons que à cette époque-là, les grands tableaux, c'est pour les grands formats, c'est pour la peinture d'histoire, la peinture religieuse, mythologique, allégorique, donc la grande peinture dans l'idée de l'époque. Donc ça ne lui vient peut-être même pas à l'idée de peindre des corps réalistes, et que ce qu'il pense devoir faire, parce qu'il ne peut peut-être pas imaginer autre chose, c'est de toute façon de faire les corps idéalisés de l'académisme. Et puis, il y a une autre raison, qui, si elle n'est pas une raison, est en revanche une excellente conséquence de ce choix. Parce que si Géricault avait cédé à sa nécrophilie, à son goût de l'horreur, de l'horrible, à son goût de la douleur, peut-être aurait-il transformé son tableau en une espèce de grand guignol insoutenable. Son tableau serait peut-être devenu directement repoussant et n'aurait jamais eu le succès qu'il a eu à l'époque, et encore moins celui bien plus considérable qu'il aura pour la postérité. En peignant des corps en pleine santé, et même des corps idéalisés, Géricault nous permet malgré tout de regarder le drame et donc surtout de l'imaginer, et donc de rentrer, jusqu'à un certain point, dans ce qu'ont vécu les naufragés. Donc finalement, on peut penser que ça a été une bonne chose, que Géricault triche là-dessus, parce que, comme ça, son tableau a pu devenir le chef-d'œuvre mondial qu'il est devenu. Géricault a eu une autre excellente idée. Celle de représenter précisément le moment qu'il a choisi, car l'histoire, toute l'histoire que racontent par exemple Savigny et Coréard, elle contient beaucoup d'épisodes extrêmement spectaculaires. Il fallait donc choisir lequel de ces épisodes représenter. Géricault va hésiter entre la mutinerie, entre les actes de cannibalisme, entre les combats. Il aurait pu aussi choisir les moments ou à la fin des combats, ou au contraire au début, ou dans l'acte de punition des matelots qui avaient volé le vin d'une des barriques, un moment où la majorité des personnes valides sur le radeau jettent très volontairement à la mer quelqu'un pour le punir. Donc il y avait un très grand nombre de possibilités. Et c'est, je pense, l'une des idées de génie de Géricault, d'avoir choisi ce moment de désespoir et d'espoir mêlés, ce moment où l'espoir monte, parce qu'on voit le bateau qui est le salut, mais où le désespoir va reprendre, parce que ce bateau ne va pas s'arrêter. On peut aisément comprendre pourquoi Géricault, par exemple, ne va pas représenter une mutinerie. Dans le contexte politique de 1819, c'eût été extrêmement risqué. Représenter le moment du sauvetage aurait été beaucoup moins dramatique. Nous sommes faits ainsi, nous autres êtres humains, que la peur est une émotion plus puissante que le bonheur, que le soulagement, ce que Géricault comprenait très probablement. Non, ce choix de ce mélange d'espoir et désespoir est vraiment très intelligent. Notons avec quelle science du récit visuel Géricault le suggère. Parce que ce qu'il y a peut-être de plus essentiel dans le tableau, c'est-à-dire précisément le bateau qui va sauver les naufragés, c'est aussi ce qu'il y a de plus petit. C'est ce petit point sur la ligne d'horizon qu'il faut observer pendant une ou deux secondes avant de comprendre qu'il s'agit d'un bateau encore lointain, d'un bateau déjà visible, mais oui, encore lointain, et on comprend immédiatement que les naufragés sur le radeau, à cette distance-là, ne sont pas du tout sûrs que le bateau les a vus, d'où le fait qu'ils vont joindre leurs forces pour hisser celui d'entre eux qui est encore en meilleure forme, donc cet homme noir que le modèle professionnel Joseph va représenter pour Géricault, et on a là quelque chose par conséquent d'infiniment plus dynamique, plus actif, et avec une richesse d'émotions instantanées énorme et parfaitement compréhensible par tous les spectateurs. Bref, Géricault réussit merveilleusement bien, avec le choix de ce moment, à nous impliquer dans la lecture et donc dans la création du tableau. C'est quelque chose que j'ai dit dans d'autres émissions, c'est quelque chose que je vais répéter très très souvent. Toute œuvre d'art à deux créateurs, l'artiste et le spectateur ou le lecteur ou l'auditeur. Mais un roman n'est qu'un peu de papier avec un peu d'encre tant que le lecteur ne le lit pas. Une symphonie, pareil, c'est un peu de papier et un peu d'encre tant que personne ne l'entend. Une sculpture n'est qu'un gros caillou ou quelques cailloux mis ensemble tant que personne ne la regarde. Et là, nous avons l'une des œuvres d'art qui réussit le mieux à nous impliquer, à nous rendre co-créateurs. Il y a encore une autre idée géniale, celle, j'y reviens, du vieil homme qui a sur ses genoux le corps sans vie de son fils. En effet, on imaginerait plutôt un jeune homme plein de santé, plein de vie, ayant sur ses genoux le corps affaibli de son vieux père, moins résistant que lui. Cette inversion de l'ordre naturel des décès dans l'espèce humaine ou dans les espèces animales est une très bonne idée de Géricault, parce que c'est un double deuil. Qu'un jeune porte le deuil de son père, c'est tragique, mais c'est normal. Qu'un père porte le deuil d'un jeune homme, même pas d'un tout petit enfant, mais d'un jeune homme fait, c'est beaucoup moins habituel. et en particulier que ce vieil homme, que ce père, ait le corps de son enfant adulte, sur les genoux, c'est là aussi une trouvaille tout à fait étonnante et d'une très grande efficacité psychologique. Continuons à essayer de voir ce qu'il y a de génial dans ce tableau. Et là, entre en jeu immédiatement la composition. Tout d'abord, la suite des plans. Le premier plan, c'est le plan du désespoir et de la mort. Complètement à gauche, nous avons cette image horrible de ce cadavre dont on se demande, parce qu'on voit la tête, on voit les épaules, le bras, le torse, dont on se demande où sont les jambes, car à l'évidence, il est tenu entre une espèce d'espace entre les deux, entre deux planches du radeau. Mais on se dit, puisqu'on ne voit pas les jambes, sont-elles là? Ont-elles été arrachées par une vague qui aurait transformé les planches en une espèce de guillotine horizontale? Ont-elles été arrachées par un requin? Ou bien pire, est-ce que ce cadavre est une réserve de viande dont on aurait déjà dégusté les pieds, les jambes, les cuisses, les fesses? On continue de gauche à droite avec ce couple tragique du vieil homme endeuillé par la mort de son jeune fils, ce couple donc qui viole l'ordre naturel des choses. Et puis ensuite le jeune homme prostré à l'abondante chevelure noire, symbole du désespoir. Et encore un homme dont on se demande, et dont lui-même se demande si cette vision du bateau salutaire va effectivement être salutaire ou si au contraire le bateau va s'éloigner. Ça, c'est donc le premier plan. Au deuxième plan, sur la droite, les choses s'améliorent parce que on voit notre charpentier athlétique, encore habillé, tendu vers le bateau éventuellement salvateur, et encore un tout petit peu plus en avant, vers le bateau, les hommes qui portent l'homme noir, celui qui agite les linges de couleur vers le bateau. Donc là, cette partie-là, c'est la partie de l'espoir, de l'action, et finalement, ce sera celle du salut. Mais creusons un peu la composition même du tableau après cette trop brève analyse des plans. Comment se divise d'une autre manière le tableau? Il y a trois pyramides. La première, la plus petite, est au premier plan. C'est celle formée par ce couple contre nature à nouveau du vieil homme et du corps de son fils, d'ailleurs prolongé par le bras du jeune homme à l'abondante chevelure noire. Ça, c'est une petite pyramide, et c'est une pyramide de la mort réalisée. Mais derrière cette petite pyramide, il y a deux grandes pyramides. Regardons sur la gauche. Les cordages du mât et de la voile établissent la pyramide du danger et du désespoir. Car notons que tout à gauche du tableau, il y a, de manière totalement irréaliste, mais psychologiquement ça fonctionne parfaitement bien, il y a une énorme vague noire, sombre, qui s'apprêterait, si elle était réelle, à engloutir le radeau. Et on voit bien que l'axe du mât fait en sorte que cette pyramide de gauche, elle n'est pas stable, elle n'est pas du tout comme les pyramides égyptiennes, le symbole de l'éternité, parce que c'est très difficile de renverser une pyramide. Non, cette pyramide-là, au contraire, elle suit l'oscillation permanente de la mer, peut-être qu'elle va même être renversée, et psychologiquement, c'est celle, je le répète, du désespoir et de la mort. Mais sur la droite, on voit l'autre pyramide. Et là aussi, dès qu'on donne ce mot, on voit tout de suite à quoi ça correspond. On voit que le sommet de la pyramide, c'est le linge de couleur agité par l'homme noir, et on voit très bien les deux lignes qui descendent de ce point et qui dessinent un triangle et en fait une pyramide. Mais là, cette pyramide-là, c'est la pyramide vers la vie, vers le salut, le sauvetage. Et cette oscillation entre la vie et la mort, entre le désespoir et l'espoir, c'est ce que nous faisons tous, nous autres êtres humains, presque toute notre vie. Tout ce qui est négatif, quelque part, nous rappelle la mort. Tout ce qui est positif nous appelle à la vie. Et ce que peint Jéricho, ce nécrophile, cet homme obsédé par les cadavres, cet homme qui va mourir d'une longue agonie qui va durer un an, eh bien, cet homme, curieusement, dans ce tableau horrible qui raconte des actes soit profondément méprisables, soit profondément tragiques, Jéricho nous parle de l'espoir et de la vie.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, encore que je ne peux que vous recommander de visiter à Paris la librairie Publico, 145 rue Amelot, où vous trouverez les œuvres éditées par les éditions du Monde Libertaire. Vous pouvez bien entendu aussi vous les procurer dans bon nombre d'autres librairies intelligentes en France, et vous pouvez aussi les commander sur Internet. Je ferai bientôt une émission sur l'un de ces livres appelé « Le dénatalisme libertaire ». En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée après cette émission consacrée au radeau de la Méduse, le tableau de Géricault au Louvre. Les émissions ultérieures d'Emus s'amuse continueront le très grand cycle d'émissions consacrées au musée du Louvre, très grand cycle puisque le musée du Louvre est lui-même un très très grand musée, en termes de superficie sous un seul toit, le plus grand musée du monde. Nous ne parlerons pas des 40 000 objets exposés, mais nous allons quand même parler d'un grand nombre d'entre eux. Et donc, je vous dis à bientôt, le premier lundi de chaque mois. Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Américaine, majesté, venez faire un tour. Vive le roi François et vive le roi Louis, vive le roi Henri. Salut les châteaux de l'histoire. J'ai pour château le cœur des belles, cher aux amours de mes nuits blanches. Et si demain je suis un mort, donnez des fleurs à la plus belle. Et baiser le sein le plus doux, c'est moi qui suis mort là-dessous. Vive Suze et Suzon, et vive ma reine Anne, et vive ma Suzanne, salut vos bras comme des branches. Et mille châteaux en Espagne, pour les amours de la misère, j'en ai bâti plein l'univers, avec des rires et des larmes. Frère, il faut vivre et mourir. J'ai dans les mains la fleur des rêves. Vive les 80 ans, du matin jusqu'au soir. Au château des espoirs, salut frère, que vous emmène.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Monsieur l'agent, monsieur l'agent, est-ce que je vais bientôt sortir de ce carrefour? Il y a longtemps, 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 monsieur l'agent, que je suis là avec ma tire. À ce carrefour, chez nous, ma femme qui m'attend avec sa mère m'a recommandé d'être là à l'heure, puisqu'il y a sa mère et moi qui rapporte le beurre pour mettre dans les épinards. Elles vont me reprocher mon retard amer. Pourquoi quand le feu est vert, c'est comme quand il est rouge, personne ne bouge, je trouve ça louche. Oh là là, quel temps on perd. Je m'énerve, m'énerve. Mais qu'est-ce donc cet agent? L'agent qui est planté devant mon véhicule, l'agent en l'air, allons ayez monsieur l'agent. La gentillesse de garer votre matricule, l'agent trop, mais la police est sur les dents. Et l'agent siffle, n'est pas content que je le bouscule. L'agent gémit, j'ai beau lui dire ma femme cardiaque est au lit avec une attaque, ça lui fait une belle jambe au lit. Il sort son petit carnet pour me ficher une contredanse. Et je suis en transe, mon beurre sera rance quand il aura terminé. Je m'énerve, m'énerve. Au violon, mes sanglots longs bercent ma peine. J'ai reçu des coups près du colon. J'ai mal vers l'aine.
Opinion extrême centre, nom de famille Schweitzer, lieu de domicile entre Zurich et la frontière. Une villa super nette, balcons et géraniums, madame à la fenêtre guette le retour de son homme. Il la trompe, elle le sait depuis longtemps déjà. Il lui ment, elle se tait, tant qu'on n'en parle pas. De gamin bien élevé, dis bonjour, sois poli, cherche pas à discuter, fais ce qu'on dit, obéis. Profession
profession, bien assise. Nom de famille, Schweitzer. En arrière-plan, la crise. Faut se défendre en affaires. Devant le chef, dos courbé. Oui, monsieur, mais bien sûr. Avec les subordonnés, faut parfois être dur. Si l'on veut s'élever, faut écraser des doigts. C'est connu, c'est un fait, tant qu'on n'en parle pas. Un apéro pas deux, en sortant du bureau. La terre est-elle en feu, mon pastis est tout chaud.
À l'écoute du 89.4 de la bande FM. C'est la radio libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans l'émission Indésine. Comme tous les 15 jours, de 22h30 à minuit 30, toute une équipe pléthorique, académique, éclectique.
C'est bon, ça.
Autour de notre ami Sébastien Crépignore. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Alors ce soir, un programme, je dirais, conséquent, encore jusqu'à minuit 30 pour tenir en haleine les auditrices et les auditeurs.
Bien sûr, bien sûr. Alors le programme déborde parce qu'il y a certaines de personnes qui sont avec nous habituellement, comme Xavier qui vient de m'envoyer une photo de lui avec Jim Jarmusch, mes amis. Jim Jarmusch qui est actuellement à la Cigale. Voilà, on le salue avec nos amis avec qui on travaille de persona grata. Donc notre ami, vous allez bientôt voir une photo de Jim Jarmusch avec notre ami Xavier. Je ne sais pas s'il va nous amener une interview, mais ça va être très cool. On a un autre envoyé spécial, Jean-Marc Bucher, qui se trouve actuellement à Bercy avec Boys Noize et Nine Inch Nice. J'ai pas encore vu sa photo avec Trent Reznor, mais en tout cas ça avance bien. Et là ce soir, on est toute l'équipe très heureux de vous accueillir au mois de juillet. Au mois de juillet, on est là. Au mois d'août, on sera là et on va vous faire plaisir. À ma gauche, j'ai Béatrice. Béatrice de Bateau Fantôme.
Hola, bonsoir.
Hey, bonsoir Béatrice. Ça fait plaisir. Et du coup, Béatrice est là. Elle va vous faire, elle va vous dire ce qu'elle va vous faire ce soir comme une interview et comme présentation.
On va parler de Wegotik Treffen 2025 et on va faire un récap avec Fred des différents groupes qu'on a présentés sur Bateau Fantôme depuis le début de l'émission.
Exactement. C'est le jour un peu aussi de pas la rentrée des classes, parce qu'on dit c'est la fin de l'année, où on va faire un peu un bilan. Et on en fera aussi avec TSC Records, avec Stéphane qui est juste derrière Fred. Stéphane qui est là, et qui fera un bilan aussi de ce qui se passe avec TSC Records. Stéphane, il est très souriant parce que bientôt il part à un bilan avec Europe. Peut-être, non, mais c'est en off, on va le garder en off. Et en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on va parler un peu de ce qui se passe avec TSC Records, avec les concerts, avec, voilà, on va à différents endroits où on va travailler, toujours avec Persona Grata et aussi avec TSC Records, avec le QG Oberkampf, 103 Oberkampf. Et voilà, on va vous parler un peu de ce qui se passe. À ma droite, il y a Estelle qui est là. Estelle,
yes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Estelle va nous parler évidemment littérature comme d'habitude, mais pas que.
Alors, on va faire un petit tour chez Jean Genet ce soir.
Voilà, Jean Genet. Et tu vas faire une sorte de une copie croisée, une sorte de tu vas essayer de faire de te confronter à un autre ami artiste théâtre Alexandre Fernandez qui est là aussi avec toi.
Voilà, Alexandre et moi, nous vous réservons une petite surprise pour tout à l'heure, effectivement.
Bah, très bien, on a hâte d'y être. Comme d'habitude, vous allez avoir toute la fréquence on, vous allez avoir l'agenda d'Arc de Vinska, vous allez avoir aussi, comme d'habitude, toutes les chroniques habituelles. Et on a une super invitée, c'est une amie hein, maintenant, donc elle fait partie de la famille, hein, DJ Nash qui est là. DJ Nash, Nash que vous connaissez.